Après, une fois que ce constat a été établi d'un risque qui globalement est plus élevé dans les pays émergents, on peut regarder aussi les pays avancés. Et aujourd'hui, ce qui nous paraît clair, c'est que les risques sont également très présents dans les pays avancés, et notamment dans les pays avancés d'Europe.
Bonjour à tous, bienvenue dans Trade Talk, le podcast pensé pour aider votre entreprise à se développer sereinement. Alors aujourd'hui, les sources d'incertitudes économiques sont légion et de nouvelles perturbations sociales et politiques pourraient les accentuer encore davantage. On pense par exemple à la montée des populismes, à l'agitation sociale, au conflit, au terrorisme, au protectionnisme. Et puis, la nouvelle donne géopolitique ouverte par les actions de la Russie pourrait aussi réveiller des risques sociaux sur d'autres points chauds du globe. Alors nous faisons le point avec Ruben Nizar, économiste et expert du risque social et politique chez Coface. Bonjour Ruben.
Bonjour.
Et avec Jean-Christophe Cavana, responsable de l'activité de Single Risk, qui accompagne les entreprises exposées à des risques commerciaux et politiques à l'international. Jean-Christophe, bonjour.
Bonjour Ingrid.
Ruben, en tant qu'économiste et spécialiste du risque politique chez Coface, quelle est votre analyse générale de la situation actuelle ?
Alors, pour répondre à cette question, je vais m'appuyer sur l'indicateur COFACE de risque politique et social, un indice de fragilité politique et sociale au niveau mondial que nous produisons pour 160 pays. Quand on regarde cet indicateur au niveau mondial, on voit que en 2022, il s'améliore par rapport à 2021. Mais c'est une amélioration toute relative, puisque en 2021, suite aux conséquences de la pandémie, ce score avait connu un bond sans précédent, qui fait que aujourd'hui encore, l'indicateur de risque politique et social est à un niveau très élevé. Et au regard de la situation, cela n'est guère étonnant, puisque on se retrouve avec les séquelles d'une très longue crise sanitaire, une guerre en Ukraine qui évidemment rebat les cartes géopolitiques, une inflation qui connaît une grande augmentation au niveau mondial, particulièrement dans les pays avancés, une crise énergétique en Europe et de nombreuses échéances politiques, de l'instabilité politique un peu partout, que ce soit dans des pays émergents ou avancés. Il semble que l'on soit entré avec la crise Covid, quelque chose que nous avions déjà signalé dès 2020, dans une nouvelle réalité du risque politique qui a été déclenchée par la pandémie de Covid, avec à la fois les conséquences économiques et humaines de cette pandémie qui, évidemment, ont créé des frustrations qui continuent à s'entretenir. Et de ces pressions liées à la crise de la pandémie, on a vu tout de suite des pressions liées à l'augmentation du coût de la vie qui ont pris immédiatement le relais, générant des risques de troubles sociaux au niveau mondial.
Mais alors sur quoi est-ce que ces risques pourraient déboucher, pourraient aboutir ? Quel type de conséquences est-ce qu'on peut imaginer ?
Donc lorsqu'on regarde notre indicateur, il vise essentiellement à identifier le risque d'instabilité du régime et de troubles sociaux. Donc c'est assez large, les événements peuvent prendre différentes formes qui vont de simples manifestations en passant par des grèves générales jusqu'à des déstabilisations politiques majeures qui peuvent aboutir à des escalades de violence, des guerres civiles, des mouvements de population qui sont déstabilisants pour un gouvernement, qui auront alors des conséquences majeures sur l'économie. Mais les conséquences, du coup, dépendent beaucoup de l'ampleur et de la nature de ces événements politiques. L'impact économique de manifestations, par exemple, il peut rester relativement limité. On le voit régulièrement en France, par exemple, où des mouvements sociaux, même d'ampleur, ont un impact sur l'activité qui reste relativement mesuré. Mais dans des cas les plus extrêmes, s'il y a escalade, on peut arriver à des situations d'État failli, où l'État n'assure plus ses missions essentielles et l'activité économique y devient quasiment impossible. Donc par exemple, la Libye post-printemps arabe fournit un exemple parfait de ces conséquences qui deviennent alors catastrophiques et des crises qui s'étalent sur plusieurs années.
Vous avez évoqué tout à l'heure un indicateur de fragilité politique et sociale. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment on mesure des risques sociaux, des risques politiques ?
Alors, chez COFACE, notre indicateur de fragilité politique et sociale, il prend en compte deux principaux piliers. Donc, tout d'abord, on regarde la fragilité politique, où on va tenter d'identifier les vulnérabilités dans les fondations d'un système politique. Donc, ça va être à la fois regarder la nature du régime politique, le degré de liberté politique qu'on va y trouver, mais aussi la fragmentation de la population sur des lignes ethniques, religieuses ou linguistiques. Le deuxième pilier va être lui plus un indicateur de risques sociaux et de risques socio-économiques, et on va y intégrer deux familles de variables. D'un côté, ce qu'on appelle les pressions au changement, avec justement ces indicateurs socio-économiques, en regardant le chômage en niveau et son évolution, les inégalités, l'inflation, le revenu par habitant, qui vont nous donner un certain sens de ces pressions que peuvent connaître les ménages dans un pays donné. Et de l'autre, on va regarder, on va les faire interagir avec ce qu'on appelle les instruments de la mobilisation, qui va plutôt évaluer la propension à se mobiliser face à ces pressions. Donc là, on va regarder surtout des indicateurs démographiques avec une population jeune, plus urbanisée, qui est en forte croissance, qui vont avoir tendance à plus tôt générer des événements de risques politiques plus fréquents.
Jean-Christophe, votre rôle à vous, c'est de couvrir ces risques politiques pour vos clients, mais on l'a vu évidemment avec Ruben, le risque politique, c'est vaste, c'est complexe. Donc de quelle manière finalement une entreprise peut-elle être couverte? Et puis contre quelle typologie de risque politique et quel type de projet on peut trouver des solutions?
On intervient en fait sur deux grands types de produits, dirons-nous. Les premiers produits est ce qu'on appelle du structured credit ou sur du single risk, et qui est plutôt pour produit pour des clients bancaires, des institutions financières, des agences de développement, des agences multilatérales, et où nous allons venir apporter une garantie sur des prêts qui sont faits sur des projets à travers le monde. Donc on peut être sur différents types de transactions, que ce soit de l'infrastructure, construction de routes, de ports, on peut être sur des constructions d'usines, construction de champs éoliens, et en termes de pays, on peut vraiment être sur une variété très très grande, puisqu'on peut couvrir des projets sur du Chili, sur l'Ouzbékistan, sur la France, sur l'Angleterre, sur plusieurs pays d'Afrique, etc. La deuxième couverture que l'on offre et qui est sur du risque politique, ce sont des couvertures qui sont plutôt offertes à des grands corporates qui ont des investissements un peu partout dans le monde et qui souhaitent se couvrir contre le risque de confiscation, de nationalisation, une perte de change due à une dévaluation de la devise locale, des changements de régulation dans des pays, des changements de loi, qui viendraient en fait mettre à mal la possession de leurs actifs.
Ruben, est-ce que vous faites une distinction entre les pays émergents et les pays plus avancés? Est-ce qu'il y a des facteurs différenciants entre les deux? Et puis, est-ce que leurs évolutions récentes, évidemment, sont différentes ou plutôt similaires?
Notre modèle, par défaut, ne fait pas de discrimination entre un pays avancé et un pays émergent. Néanmoins, on trouve des différences majeures, et notamment dans les pays émergents, on retrouve des régimes politiques qui sont généralement plus instables, avec des régimes parfois plus autoritaires qui génèrent plus d'événements de contestation et aussi plus de répression. Donc ça, c'est un élément important. Autre élément qui fait souvent la différence dans notre indicateur et dans notre analyse, c'est que, comme je l'indiquais dans notre méthodologie, les facteurs démographiques jouent un rôle dans l'évaluation du score. Et effectivement, dans les pays émergents, en retrouvant des populations généralement plus jeunes, plus susceptibles de se mobiliser, c'est vrai que c'est dans des pays émergents qu'on va réussir à identifier de cette manière-là. On a des exemples récents, que ça parte des printemps arabes que je mentionnais un petit peu plus tôt, jusqu'à aujourd'hui, avec effectivement des populations dans différents pays d'Afrique, d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient, mais aussi en Asie, avec par exemple l'Indonésie, ou dans les Amériques Caraïbes, avec encore plus récent, comme celui d'Haïti, où on voit des mobilisations majeures et des troubles sociaux majeurs. Après, une fois que ce constat a été établi d'un risque qui globalement est plus élevé dans les pays émergents, on peut regarder aussi les pays avancés. Et aujourd'hui, ce qui nous paraît clair, c'est que les risques sont également très présents dans les pays avancés, et notamment dans les pays avancés d'Europe. Pourquoi ? Tout d'abord, on regarde la question de l'inflation et de la sécurité énergétique, qui évidemment font peser des pressions sur les finances des ménages. Une crise du coût de la vie qui s'intensifie avec des salaires réels mis sous pression par cette inflation à des niveaux records depuis plusieurs décennies. Donc effectivement, on a aussi dans notre viseur, même si dans notre indicateur à des niveaux moins élevés, ces pays avancés où on pourrait retrouver des manifestations de risques politiques peut-être moins intenses, avec des différences de manifestations et des événements un petit peu différents et moins violents dans les pays émergents, moins dramatiques dans les pays émergents, mais néanmoins qui peuvent créer des déstabilisations.
Alors, parmi les pays émergents, quels sont ceux qui semblent le plus risqués aujourd'hui et pour quelles raisons ?
Quand on regarde aujourd'hui notre indicateur, et c'est le cas depuis plusieurs années, c'est l'Iran qui est en tête de notre indicateur de fragilité politique et sociale. Au regard de la situation actuelle et des mouvements d'ampleur déclenchés par la mort de Mahsa Amini ces dernières semaines et même ces derniers mois, cela n'étonne guère et on peut directement faire le lien entre ce niveau de risque qui était déjà identifié comme très élevé et ces nouveaux événements qui sont aujourd'hui, qui tentent d'être contenus par les autorités iraniennes. Après, quand on essaye de regarder et quand on descend un petit peu la hiérarchie et quand on regarde la situation actuelle, les troubles civils les plus explosifs sont susceptibles de se produire là où les possibilités de dissidence se réduisent. Et aussi, deuxième facteur, là où la capacité de protéger les populations contre la hausse du coût de la vie est plus limitée. Donc des finances publiques qui sont peut-être plus sous pression. Donc dans ce cadre-là, quand on regarde encore une fois plutôt du côté des pays émergents, on peut citer quelques pays en difficulté, tels que le Kenya, la Bolivie, la Tunisie, voire l'Égypte, où effectivement on a cette combinaison de facteurs qui pourraient amener à des événements politiques majeurs, déstabilisateurs pour l'environnement politique et économique.
Vous le disiez en introduction, contrairement à ce qu'on peut penser, il y a des risques aussi dans les pays développés, des risques politiques, des risques sociaux. Certains pays développés ont même des indicateurs qui sont actuellement au plus haut. Lesquels et pourquoi ?
Donc effectivement, les États-Unis restent un pays qui, parmi les pays avancés, occupe une place particulière et où on regarde tout particulièrement les événements de risques politiques. Le cycle électoral fait en plus que ces risques politiques risquent d'intervenir de manière très régulière et la contestation de plus en plus fréquente des résultats des élections peut amener effectivement à des événements qui sont déstabilisateurs pour les institutions américaines et pour, à terme, son environnement économique. Et dans même l'élaboration des politiques publiques au quotidien, le clivage grandissant entre les deux principaux partis dans ce système bipartisan est un frein à l'élaboration des politiques publiques sur le moyen-long terme. Après, quand on essaye de regarder dans d'autres pays, et surtout en Europe, dans le contexte actuel, j'ai mentionné la crise énergétique et l'inflation, on voit des mouvements émerger, des manifestations, des revendications salariales qui s'intensifie. Je trouve particulièrement intéressant aussi le mouvement Don't Pay UK, avec ce mouvement de refus de payer les factures d'électricité au Royaume-Uni en réaction à cette hausse des factures d'électricité qui a été sans précédent au cours de la dernière année. Donc c'est effectivement des risques politiques peut-être moins dramatiques, encore une fois, mais qui vont se multiplier. Dernier élément à regarder, c'est que dans ce contexte de mise sous pression des finances des ménages, on voit une polarisation des démocraties européennes. De nouveau, les extrêmes montent, les populismes reviennent en force. On l'a vu ces dernières semaines, notamment avec les élections en Suède, avec les élections en Italie, et on l'a vu par moments aussi en Espagne ou en France, ce sont des tensions que l'on risque de revoir et qui risquent de se réinviter dans le débat dans les prochains mois et dans les prochaines années.
Jean-Christophe, est-ce qu'on vous adresse en ce moment des demandes de protection inédites dans ce contexte qui est assez dégradé, assez inédit aussi ?
Tout à fait. On a reçu depuis quelques mois maintenant, depuis le début de l'année, depuis justement le conflit russo-ukrainien, des demandes complètement atypiques qu'on ne pensait pas un jour voir même arriver sur le marché. Et je pense notamment à quelques exemples. Le premier, peut-être le plus inattendu, c'est la couverture de risques politiques sur l'Allemagne, où des compagnies ont commencé à s'inquiéter de la possible nationalisation des stocks de gaz. Et on a vu des demandes de couverture contre la nationalisation ou la confiscation de ces stocks de gaz. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui était inattendu et qui était même impensable il y a un an. Mais ça a entraîné aussi d'autres demandes, notamment sur tous les pays frontaliers qui sont autour de l'Ukraine. On commence à voir des entreprises qui jusque-là ne considéraient pas leur présence dans ces pays, comme la Pologne, la Roumanie, la Bulgarie, la Slovaquie, comme étant une présence avec un risque associé à cette activité. Le conflit aussi et la situation géopolitique plus généralement fait ressortir des projets qui avaient été mis en sommeil ou qui avaient été jugés peu rentable à l'époque. Je pense notamment à un pipeline Nigeria-Espagne qui ferait tout le tour de la côte ouest de l'Afrique, qui avait, il y a plusieurs années, avait vraiment été jugé même presque comme fou. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, la dépendance énergétique est quelque chose qui peut être dangereux. Et donc, du coup, on voit ressortir un certain nombre de dossiers comme ça.
Comment est-ce que les entreprises anticipent ces risques? Comment est-ce qu'elles se couvrent en amont contre des choses qui sont finalement assez difficiles à prévoir?
Les entreprises ont tendance à venir nous voir lorsqu'il y a un problème. Ce qui est du coup pour les assureurs plus difficile car on aime moins intervenir lorsque le problème est déjà là. Nous, on est tout à fait prêts à intervenir et à proposer des solutions de couverture avant que le problème arrive, mais une fois que le problème est présent, c'est plus difficile. Donc, je pense que c'est une situation globale qui peut-être fera prendre conscience aux gens que les couvertures d'assurance du type politique ne sont pas en fait des couvertures qui ne sont jamais déclenchées. On peut vraiment avoir des situations dans lesquelles ça devient intéressant.
On va essayer de terminer sur une note un peu plus positive. Ruben, est-ce qu'il y a des îlots de tranquillité dans le monde, des pays où les risques sociaux et politiques vous semblent très faibles?
Donc sur les îlots de tranquillité, j'aurais une réponse relativement prudente. Je ne sais pas si on peut pleinement les considérer comme des îlots de tranquillité. Néanmoins, sans aucun doute, il y a une poignée de pays qui systématiquement ont des scores dans notre indicateur qui sont plus faibles et où on voit effectivement des mouvements de troubles sociaux moins fréquents et de moindre ampleur. Ça concerne essentiellement des pays d'Europe du Nord, avec par exemple la Norvège ou la Finlande. Ça concerne également le Japon ou la Nouvelle-Zélande. Néanmoins, là encore, le propos est à nuancer, puisque même si ce sont des niveaux de risque peu élevés, on le sait par exemple au Japon, il peut y avoir de l'instabilité gouvernementale qui là aussi a un impact sur l'élaboration des politiques publiques, sur la prévisibilité de l'environnement des affaires et sur l'activité économique.
Est-ce qu'il y a des pays qui ont inversé la tendance ces dernières années?
Alors, là aussi, je resterai assez prudent dans ma réponse, puisque même si on voit effectivement des pays qui ont eu des niveaux de score qui ont baissé au cours des dernières années, ça reste tout de même à des niveaux élevés. Et la réalité actuelle post-pandémique et de crise de coût de la vie au niveau mondial pose véritablement la question d'un niveau de risque qui serait structurellement plus élevé. Une fois que ces réserves ont été émises, effectivement, on peut regarder par exemple le cas de la Tunisie, que je mentionnais un peu plus tôt, suite au printemps arabe en 2011-2012, a effectivement connu une baisse de son indicateur de risque politique qui est plutôt cohérente avec l'évolution et la perception de la situation en Tunisie au cours de la dernière décennie, qui est probablement l'exemple le plus réussi, ou en tout cas le plus réussi de post-révolution de 2011 dans ces pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Et on a vu des progrès, mais néanmoins la nuance ressort également dans ce pays, puisque on a vu ces derniers mois une présidentialisation du régime et des changements constitutionnels et institutionnels qui sont de nature à créer des troubles sociaux. Et cela intervient dans un contexte où la facture énergétique tunisienne, là aussi, s'alourdit et pourrait créer de nouveau du mécontentement au sein des populations et notamment au sein de populations qui ont vu des progrès sur leur niveau de vie relativement limités depuis 10 ans.
Jean-Christophe, Ruben, merci beaucoup pour ces informations précises et précieuses.
Je vous remercie. Au revoir.
Merci à vous, Ingrid.
C'était Ingrid Labuzan, journaliste pour Coface. À très bientôt pour un prochain podcast et en attendant, retrouvez les analyses des risques pays et secteurs de Coface sur coface.com.